Allô, 36-37, la ligne du don. Je vous téléphone là, c'est pour vous dire que les 1000 euros que je vous ai promis hier soir, c'était pour déconner. Non, je les ai pas. Quoi, c'est dégueulasse. Je fais comme les dirigeants politiques. Au moment des promesses, je promets tout ce qu'on veut, changer la vie, colmater la fracture sociale, tout ça. Et puis au moment de tenir les promesses, finalement, je vous dis, on peut pas, on n'a pas de pognon. Ben, je les ai pas les 1000 euros que j'ai promis hier, voilà. Je suis désolé, hein. Et puis, c'est pas tout. Puis je vais vous dire, même si je les avais, j'aurais pas gaspillé 1000 euros sur des malades qui sont foutus et qui sont des locumènes. En plus que ça leur donne de mauvaises habitudes. On va en faire des assistés. Les ectymiopathes et compagnie, il n'y a qu'à les foutre dans des centres de rééducation surveillés. Un truc musclé, quoi. Dehors qu'ils vont se bouger le cul, les handicapés. Non, et puis quoi encore? On commence par le Téléthon, et si ça continue, on va faire l'abbé Pierreton, les restos du Cœurton, et toutes sortes de pauvretons. Non, ça c'est pas un bon système, hein, je vous le dis. Moi je suis libéral, moi. Je suis comme vous rappelez pas le discours de Sarkozy en juillet 98. Il avait dit il y en a qui peuvent plus, qui sont fatigués, eh ben qu'on les laisse tomber. Il disait ça à Sarkozy à l'époque. Maintenant on le dit plus.
Salut Daniel, c'est Geneviève de Médecins du Monde. La traite des Roms continue. Le 1er décembre, 350 Roms vivant sur un terrain à Créteil ont été contraints à quitter leur lieu de vie suite à des pressions policières continues depuis 2 mois. Ils ont trouvé refuge sur d'autres terrains du Val-de-Marne, ont été à nouveau expulsés. Leurs caravanes ont été détruites ainsi que leurs affaires personnelles. Depuis cette nuit, à 1h du matin, 120 personnes se retrouvent sans possibilité d'hébergement dans une pièce de 30 mètres carrés d'un centre d'accueil de Créteil. Ce soir donc, 120 personnes, dont 30 enfants, des personnes âgées, malades, se retrouvent sans toit, sans aucune solution d'hébergement. Nous sommes devant une catastrophe humanitaire. Qu'en est-il des droits de l'homme dans ces conditions?
Nous sommes vendredi 5 décembre et je suis en train d'écouter l'émission de Daniel concernant les problèmes de l'emploi, des exclus, etc. Alors moi je voulais simplement témoigner et dire que j'ai 49 ans, j'aurai 50 ans au mois de février, alors peut-être une chance de trouver un emploi après l'anniversaire de mes 50 ans, puisque les employeurs sont exonérés de charges patronales. Voilà, j'ai été assistante de direction pendant 17 ans, je suis bilingue anglais. J'ai fait un CES, un CEC, et aujourd'hui je me retrouve au chômage. Et le CES et le CEC que j'ai pris et qui n'étaient pas du tout en correspondance avec mes compétences, eh ben je l'ai fait parce que j'avais envie de me retrouver dans le milieu du travail. Donc avec un salaire largement inférieur à celui auquel j'aurais pu prétendre et à mes indemnités de chômage. Voilà, et puis maintenant on me dit je n'ai plus droit à un CES, je n'ai plus droit à un CEC, j'ai plus qu'à me laisser mourir, quoi. Donc voilà, j'ai une fille de 14 ans que je dois finir d'élever et je me demande comment je vais faire. Parce que effectivement, je me trouve dans un cas de précarité. Là, actuellement, je touche des allocations de chômage dans la mesure où mon CEC a été terminé normalement. Alors, je voudrais savoir, pour les gens qui veulent travailler, qui sont prêts à se remettre dans le milieu du travail et à avoir des contacts, etc., comment on doit faire? Ou on est trop jeune, ou on n'est pas assez jeune, ou on est trop vieux, ou on n'est pas assez vieux. Mais après, qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas.
Voilà, les sons se succèdent et c'est un peu comme une réponse quand même à ce message de cette auditrice. Des messages comme ça, on en a reçu des quantités après le reportage, l'émission de vendredi sur le chômage, sur la réduction des allocations au chômage. Et Alors, la réponse, eh ben voilà une en tout cas, cette manifestation de samedi à Paris, qui était vraiment mal partie, on pensait que ça allait être une toute petite manif, et ben finalement ça a pas mal marché du tout, ils étaient au moins entre 5 et 10 000 dans les rues de Paris. On sait que ces manifestations sont pas faciles du tout à organiser, à réussir, et donc c'est une réussite, c'est une des manifestations de chômeurs les plus importantes depuis très longtemps. Et puis vous avez vu l'épisode au Bon Marché, ça a chauffé pas mal au Bon Marché. On va revenir là-dessus aujourd'hui avec des chômeurs qui étaient dans la manif, qui vont nous raconter leur situation, et puis deux personnes qu'on a vu rencontrer déjà vendredi, le sociologue Robert Castel, spécialiste des mutations dans le monde du travail, et puis à la fois un syndicaliste et aussi un chômeur, Philippe Villechalane de la PES. Auparavant, d'autres messages sur le répondeur de la base, si j'y suis, 01 56 40 37 37.
Je suis tout à fait d'accord avec tout ce que j'entends en ce moment sur les travailleurs qui se trouvent soit au chômage, soit avec un salaire de misère. Je fais partie d'une association caritative. Toutes les semaines, nous avons des dossiers dans ce sens. Par exemple, une chose dont on n'a pas parlé, là, c'est les gens qui font un petit travail, qui font un travail, un CES ou autre, pendant un certain temps. Quand ça cesse, et qu'il faut retourner au RMI, il y a un délai d'un ou deux mois avant de toucher quelque chose. Et ils se trouvent absolument sans rien. Et à ce moment-là, ils viennent nous demander simplement de quoi nourrir leur famille. Il y a ça, et puis l'allocation logement aussi, qui est calculée sur l'année de salaire précédente. Donc s'ils ont travaillé, s'ils n'ont pas travaillé cette année-là, elle est importante. Si la deuxième fois, ils travaillent un petit peu, elle est beaucoup diminuée, si bien que le bénéfice qu'ils ont à travailler se trouve occulté par ce fait-là. Bien sûr, quelquefois on dit ils ne veulent pas travailler, mais quel est le bénéfice de travailler pour un salaire de misère et pour après avoir tous les problèmes pour retrouver soit le RMI, soit une aide quelconque. Et ils sont bien plus nombreux qu'on ne croit. Et les gens à qui on parle de ça sont toujours très étonnés. C'est pas possible, ça existe, ça. Et souvent on nous dit, mais ils veulent pas travailler. Ça, c'est vrai que c'est une très répandu. Et nous, on voit ça de près. On va voir les gens, on sait exactement de quoi ils retournent. Et je peux vous assurer que c'est pas le cas. Voilà.
Nous ne voulons pas être tristes. C'est trop facile. C'est trop bête. C'est trop commode. On a trop souvent l'occasion. C'est pas malin. Tout le monde est triste. Nous ne voulons plus être tristes. C'était un poème de Sandra, offert par Fanny et Fabrice de Toulouse. Salut Daniel, on adore ce que tu fais. Voilà, bisous. Ciao.
Daniel, bonsoir. Alors je voudrais te dire déjà, quand on rentre du boulot à 17h et qu'on tombe sur une émission là depuis 2 jours, tu me casses le moral, parce que l'OMC, la GCS, tout ça, on connaît, mais tu me démolis. Deuxièmement, t'inquiète pas, on est toujours en colère. Je suis enseignante en Seine-Saint-Denis, à Saint-Denis. Le débat, j'en rigole encore, parce que je me pose la question depuis quand un ministre demande à la base ce qu'il en pense, avec les petites pubs. On entend à France Inter, vous êtes 60 millions marchands intéressés par l'école. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pendant 3 mois, on a voulu la défendre, cette école. On nous a pas écoutés. Bon, ça, c'est un point. Troisième point. On n'a pas changé de colère. D'accord? On est toujours en colère. Et maintenant, merde, tes auditeurs, là, tes millions d'auditeurs, là, faut qu'on fasse quelque chose, là. On va pas rester comme ça. Hein? Tout le monde est accablé. Mais attends, moi je suis accablé. On m'a piqué plein de fric, là. Mais ça fait rien, je veux bouger. Mais je peux pas bouger toute seule. Alors faut qu'on bouge tous ensemble. Puis qu'on fasse quelque chose d'efficace, là. Qu'on dise non, 1 million, ça leur suffit pas. Ben, il faut qu'on soit 2 millions dans la rue. Voilà. 2 millions. Et là, j'aurai l'espoir. Allez, Daniel, je t'embrasse. Tes émissions, elles sont super. Mais sauf quand tu me casses le moral, là. Parce que là, avec le monde diplomatique, là, tu m'as tué, là. Je je veux pas entendre ce que je sais déjà, tu vois. Allez, je t'embrasse. Salut.
Alors moi aussi, je suis au chômage. Comme beaucoup, c'est mon dernier mois d'indemnisation. Et je trouve toujours pas de boulot. Je vais avoir le RMA. D'ailleurs, chose curieuse, j'ai obtenu mes papiers de demande du RMA avant que celui-ci soit voté à l'Assemblée nationale. C'est bizarre, hein. Autrement, j'essaie de te faire parvenir mon enregistrement de Castor et Alice de 1996. Est-ce que tu l'as vu?
Bonsoir, Thomas de Clermont-Ferrand. Je téléphone à propos du départ du prochain Dakar. Cette année, il est prévu que ce rallye démarre de Clermont-Ferrand. Alors, on est quelques-uns ici à se mobiliser à titre individuel, associatif, syndical ou politique, en opposition à cet événement. Et du coup, c'est l'objet de ce message sur le répondeur de là-bas si j'y suis. On invite tous les Clermontois qui le souhaiteront à participer à une réunion publique qui aura lieu le 17 décembre au soir, c'est un mercredi, dans une salle qui s'appelle l'Atollerie, rue de Bienassy. Voilà, l'intervenant sera Michel Kaya, qui a écrit de nombreux articles, dont un déjà dans Le Monde en 84, je crois, qui s'appelait « Les riches et les fauchés », après qu'une gamine ait été fauchée, justement, sur le passage du rallye. Voilà, donc le 17 décembre à 20h30. Au revoir, merci.
Salut, c'est Daniel Mermet, avec Claire Otter. Là-bas, si j'y suis, tout va bien.
Flight number 2, arriving from New York.
Je m'appelle Raymond et j'ai 56 ans. Je suis à mon quatrième licenciement. J'ai commencé à travailler à 16 ans, 2 mois avant mes 16 ans. Je me suis habitué à vivre, j'appellerais ça Rikirak, quoi. Rikirak, si vous voulez, au minimum.
Je m'appelle Isabelle, j'ai 38 ans, je suis mère de 2 enfants, j'étais responsable d'agence commerciale dans la distribution informatique. J'ai été licenciée en 2001 suite à une restructuration d'entreprise issue d'un rachat. A priori, à partir du mois d'avril, il devrait nous rester 3000 francs pour payer l'électricité, le téléphone et nourrir une famille de 4 personnes.
Je m'appelle Aïcha, j'ai 42 ans, je suis mère de famille de 5 enfants. J'étais caissière pendant 15 ans, donc c'est la première fois que je me retrouve au chômage. J'espère que je vais retrouver du travail. Mais si je retrouve du travail au SMIG aussi, un SMIGard, c'est comme un chômeur. J'étais au SMIG, j'avais des problèmes. Financièrement, j'avais des problèmes.
Je m'appelle Mourad, j'ai 29 ans aujourd'hui, je suis actuellement en recherche d'un emploi. J'ai réussi 2 concours de la fonction publique territoriale, j'ai un bac plus 5, je suis inscrit à la NPE. Je fais des démarches pour chercher un emploi dans la fonction publique, je n'ai pas droit aux ACEDIC. Mon nom me raccroche à une culture, à une religion, et ceci est un handicap, c'est vrai, pour moi aujourd'hui. Mais cela ne veut pas dire que je vais renier mon identité pour pouvoir obtenir quelque chose dans notre société.
Je m'appelle Claude, j'ai 37 ans. Je suis chômeur depuis 1 an et demi. Et là, je suis à la recherche d'emploi. Je suis arrivé en fin de droit, là je touche mon RMI. Je compte faire de l'intérim, moi, pour l'instant. J'ai envie de faire de l'intérim. En disant que l'intérim, ça me convient, quoi.
Retrait du RMA, à travail égal, salaire égal. Retrait du RMA, à travail égal, salaire égal. Retrait du RMA, à travail égal.
Raymond, Isabelle, Aïcha, Mourad et Claude étaient dans la manif de samedi à Paris. Raymond, Isabelle, Aïcha, Mourad et Claude ne vous apprennent rien. vous les connaissez. Vous connaissez un Claude, vous connaissez un Mourad, vous connaissez une Aïcha, vous connaissez une Isabelle et vous connaissez un Raymond, même si c'est un Raymond Riquérac. C'est nous, c'est vous, c'est aujourd'hui. Sauf que l'image des chômeurs et des précaires a changé. Il y a 10 ans, quand on faisait ce genre de reportage, le chômeur était une victime. Aujourd'hui, le chômeur est en passe de devenir le bouc émissaire. La politique de notre actuel gouvernement, après d'autres politiques analogues dans des gouvernements précédents, il faut bien le dire, consiste à réduire les allocations de chômage. Pourquoi ? Eh bien, parce que les allocations chômage empêchent le retour à l'emploi. C'est la politique de ce gouvernement, c'est son credo, on le dit et on le redit. Et finalement, les Français, peu à peu, se disent, ben oui, au fond, c'est vrai que ça ne peut pas durer éternellement. Quelle est la réalité de cette vie quotidienne? On voit bien dans les messages ce que ça représente, ce gars qui va passer au RMA. C'est pas mal le jour où vous dites, bon, ben voilà, maintenant je vais passer au RMA. C'est une sacrée journée quand même. Alors voilà, Nous, on change pas. On veut raconter les choses par le vécu, par ce que c'est au quotidien, dans la vie de chacun et de chacune. Chacune parce que on va rencontrer deux femmes, Aïcha, donc que vous avez entrevue déjà, et puis Isabelle, deux femmes. Et puis ensuite, vous allez voir, avec des trajets sociaux tout à fait différents. Et puis ensuite, comme je vous l'ai dit, on retrouvera Philippe Villechalane, qui est à la fois un chômeur et un syndicaliste de l'APIS. Et puis, on aura avec lui, c'est un dialogue d'ailleurs, avec le sociologue Robert Castel, qui est un spécialiste du travail. C'est jusqu'à 18h, c'est là-bas si j'y suis. On part avec le mot emblématique de la PAIS qui dit « Nous ne sommes pas en trop, nous sommes en plus ».
Human spirit ayant chanté tout l'été, se trouva en vie pour vie quand la pauvre est venue. Pas un seul petit compagnie de show à la télé, à la city du quartier, ils allèrent tous pointer, lui priant de leur allouer quelques sous pour subsister. Oh non, aïe 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 aïe, aïe. Oh là. L'État n'est pas prêteur, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous autant chaud, étiez-vous déclaré? Avez-vous des fiches de paye à nous présenter? Oh non, aïe 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 aïe, oh là. Autant chaud on chantait, on était à l'aise. Autant chaud on dansait, ne vous déplaise. Autant chaud on dansait, on était à l'aise. Autant chaud on chantait, ne vous déplaise.
Ah, vous chantiez, j'en suis fort aise.
Et bien dansez maintenant.
Madame, bonjour.
Bonjour monsieur, soyez le bienvenu parmi nous.
Bienvenue.
Bonjour. La pêche.
La pêche ou la pète?
Comment vas-tu?
Bah ça va.
Oui. Moral.
Le moral d'acier, toujours, il faut.
Ça c'est les petits mots que les gens mettent sur les murs
ici. Les petits mots que les gens mettent ici. L'économie politique n'est qu'encouragement à la consommation et au gaspillage et à la destruction. C'est une économie de mort. Réapprenons la réelle économie, celle des moyens et des énergies, celle de la conscience. La conscience, le respect et le juste partage. Une économie de la vie, Le moral de mon ménage ne se réduira jamais à des points de consommation. Ici, il y a aussi un atelier d'écriture qui se fait tous les lundis matins, où, dans ce moment, ce qui se fait, c'est une histoire. Alors, chacun invente un personnage, et l'idée, c'est de les faire se rencontrer, et de créer toute une trame et une histoire. Et en fait, on se rend compte que dans les histoires qui sont racontées, c'est des choses qui sont complètement en dehors de la vie quotidienne des gens qui viennent ici. Et je trouve que c'est quelque chose d'assez fantastique. Et partout ici, vous avez des poèmes, des textes, des dessins qui ont été faits aussi par Vincent. C'est de l'oxygène. Je pense qu'avant tout, faut déjà amener les gens à se convaincre eux-mêmes qu'ils peuvent créer, qu'ils sont des créateurs en puissance, quoi. Que cette société cesse de les prendre pour des déchets ou en tout cas pour des gens inutiles, des consommateurs. Ils sont acteurs du fonctionnement de cette association.
Les déchets, c'est le sentiment secret, honteux, qui hante ceux qui sont rejetés de l'emploi. Ça dure depuis des années et c'est à l'intérieur de notre société. Alors on nous a fait croire, on a cru nous-mêmes que c'était une mauvaise conjoncture, que c'était une crise, que c'était un mauvais moment, que on nous a expliqué ça, on nous a présenté les choses comme quelque chose allant de soi, naturel, comme une longue inondation, une longue intempérie. Et puis avec le temps, force est de constater que c'est une volonté, une profonde volonté politique et idéologique que d'installer durablement le chômage dans nos sociétés. Alors, remède, allocation. Cette fois, on veut réduire et on installe des réductions des chômeurs, du chômage, des indemnisations du chômage, parce que on considère que on ne peut pas payer indéfiniment, indemniser indéfiniment le chômage. C'est la phrase à peu près exacte du ministre Fillon. Pourquoi ? Parce que, ces allocations empêche le retour à l'emploi. Donc on va réduire les allocations et comme ça, on va assister à un retour à l'emploi. On va voir ça dans les jours et les semaines et les mois qui viennent. Inutile de dire que la plupart des chômeurs et des précaires et des laissés pour compte dans notre beau pays n'y croient pas un seul instant. Mais comment vivent-ils tout ça? Voilà pourquoi, c'est la raison pour laquelle on est à l'APAIS. L'APAIS, c'est un des syndicats, une association de chômeurs, association pour l'emploi, l'information et la solidarité des chômeurs et des précaires, et on se retrouve là dans ce local de l'APAIS, pas seulement évidemment pour essayer d'obtenir des indemnités, des aides, des secours, etc., pas seulement dans un esprit d'entraide caritative, disons, mais aussi pour recouvrer cette dignité à travers en préparant des manifs, en s'organisant, en essayant de prendre la mesure et la conscience politique de tout cela. Là, on rencontre deux femmes, vous allez voir, je vous le disais, qui ont des trajets très différents. D'abord, Aïcha.
Je m'appelle Aïcha, j'ai 42 ans, je suis mère de famille de 5 enfants qui ont 18, 10 ans, 9 ans, 7 ans et 3 ans. Je vis en France depuis 24 ans, mes enfants sont nés en France. J'étais caissière pendant 15 ans, donc c'est la première fois que je me retrouve au chômage. Et je me suis inscrite aux ACDIC en novembre 2001. Et avec des revenus, 741 euros d'ACDIC et 3200 francs d'allocation familiale. Je pouvais pas m'en sortir. J'ai des dettes de comptine, j'ai une renonce par le trésor public. J'attends le jugement du tribunal parce que le père ne paye pas de pension alimentaire. Donc pour le moment, je me retrouve toute seule avec tous ces frais-là. Quand je sors le matin, je me dis, tiens Aïcha, il faut que tu fasses des économies. Il faut que tu serres la ceinture à fond de la caisse et essaye de dépenser 10 euros par jour. Mais quand j'arrive à Monoprix, je me retrouve avec un chèque de 46 euros par jour. Parce qu'il manque plein de choses. Donc tous les mois, je suis débitrice. Et c'est comme ça. Je rachète des cuisses de poulet, ça coûte moins cher. Des nouilles au fromage. Je suis arrivée à leur faire des sandwichs au fromage le soir et c'est bon. Et on s'endort. Et le lendemain, ils mangent bien à la cantine. Voilà. Avec la nouvelle mesure qui va me toucher en janvier, Je suis pas bien. Je suis pas bien du tout parce que je m'attends au pire au mois de janvier. Je sais pas comment on va faire. Puisqu'il y a une pauvreté pas possible. Et ils vont nous replonger encore dans la pauvreté. On a droit de vivre et pas survivre. Je crois qu'on s'est, on est habitué à ce système-là, à survivre. On survit toujours. Et là, ils vont nous replonger encore pire. Parce qu'on est, on est déjà fragile. On va dans des magasins, nos enfants voient des choses, ils voient des choses à la publicité. Moi, j'ai la petite qui me dit, maman, quand tu mets la carte dans le distributeur, tu gagnes de l'argent. Elle sait pas que si j'ai pas d'argent, je ne peux pas retirer. Cette réforme, ils vont me voler des mois. On les appelle comme ça, c'est des voleurs. Ils vont me voler des mois. L'État va me voler des mois d'allocation alors que j'ai cotisé pendant 15 ans. Donc là, j'ai le droit à 30 mois. Au mois de janvier, ils vont me voler 6 ou 7 mois. Je suis pas d'accord qu'on me vole. Au départ, j'avais un contrat qui disait que j'étais indemnisée pour 30 mois. Là, je passe à l'allocation solidarité spécifique en janvier, qui est de 13 euros par jour, avec 5 enfants. 13 euros par jour. Est-ce que eux peuvent vivre avec 13 euros par jour? Avec 5 enfants, le loyer, le DF, cantine scolaire, centre loisirs, puisque pour faire mes recherches d'emploi, je suis obligée de payer le centre loisirs, ça me coûte 17,54 euros la journée au centre loisirs. Alors les 13 euros, ils sont bouffés. Donc comment je vais pouvoir faire des recherches d'emploi? On touche toujours aux pauvres. Ils sont en bas, on veut les écraser encore plus.
Le premier des droits de l'homme, c'est... D'abord, le RMI, dont on sait qu'il est quelquefois un piège à l'exclusion, va s'orienter vers un RMA, c'est-à-dire en fait un revenu minimum d'activité, qui permettra, nous l'espérons, à beaucoup de ceux qui sont exclus dans notre pays, de pouvoir rentrer dans l'emploi. D'autre part, il a annoncé des mesures d'assouplissement des réglementations qui dissuadent les entreprises d'embaucher des travailleurs seniors. Il nous a enfin beaucoup engagés à poursuivre et à réussir la négociation sur la formation professionnelle. Bref, la négociation sociale a été reconnue par le gouvernement comme ayant son autonomie, son secteur en quelque sorte de responsabilité. Et je pense pour le MEDEF qui redoutait un petit peu le mélange des genres, c'est une bonne conclusion.
La France est un pays des droits de l'homme. Par contre, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont mis les droits de l'homme, parce qu'on ne les voit pas là. On ne voit pas les droits de l'homme. Les droits de l'enfant aussi. Ils sont où les droits de l'enfant? Et avec mes dettes de loyer et tous mes problèmes, j'ai fait 3 tentatives de suicide parce que je voulais en finir. La troisième, je voulais y aller carrément à la porte d'Italie et me balancer par le pont. Comme ça, j'en finis une fois pour toutes. J'essaierai de remonter à la surface, mais on ne peut pas. On ne peut pas, non, on a un nœud. Et ce nœud-là, avec toutes nos situations, nos problèmes, empêche les plans. En janvier, je sais pas comment ça va se passer. On verra. Ce qui me fait tenir, c'est mes enfants. Ils me font tenir parce que si je pars, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils vont être des futurs chômeurs. J'espère que je vais retrouver du travail. Mais si je retrouve du travail au SMIG aussi, un SMIGard, c'est comme un chômeur. J'étais au SMIG, j'avais des problèmes. Financièrement, j'avais des problèmes. Donc pour le moment, on fabrique des pauvres et des riches riches. Je crois que la France va devenir un pays comme les autres pays du tiers-monde, où le riche est très très riche et le pauvre est très très pauvre. Et moi, j'ai pas envie de ce système. J'ai pas envie de toucher le RMI. Quand on est RMiste, on n'a plus de dignité. Il faut la mettre dans sa poche. Parce que vous allez demander des aides financières, c'est dégradant pour nous. Et on a cette honte. Et on n'a pas envie de faire ce pas-là. Et des fois, on laisse les dettes s'accumuler parce qu'on a cette honte-là de faire le pas et d'aller demander. Nous, en tant que chômeurs ou RMistes, on a une affiche en tant que délinquants. On est des délinquants pour l'État. On en a marre d'aller demander des aides financières, d'aller demander des colis alimentaires, d'aller au Resto du Cœur. Le Resto du Cœur ne peut pas ramasser toute la misère de la France. Nous, ce qu'on veut, c'est un boulot, un vrai boulot, pour sortir de ce système de pauvreté. On en a marre. On n'est pas des feignants. On se lève à 7h du matin comme tout le monde. Et à 8h, on est dehors. Et toute la journée, on est dehors. Arrêtez de dire qu'on est des feignants.
Le cours de la bourse augmente aussi, le cours de la bourse augmente aussi. Mais qui sème la misère, récolte la colère. Et la lutte continue, vive l'action, vive l'action. Et la lutte continue, vive les occupations.
Manif samedi à Paris contre la baisse des indemnisations de chômage. Évidemment, les chômeurs sont des chômeurs différents. À part le malheur, à part le désastre, à part l'exclusion, qu'ont-ils en commun? Il y a des gens comme Aïcha, il y a des gens aussi comme Isabelle, qui ont des parcours tout à fait différents. Et c'est difficile de se mettre ensemble dans la rue. Surtout que autour de quoi? Ben, autour d'une défaite quand même, d'une exclusion. Aïcha dit un truc terrible. Pour l'État, on est des délinquants. Que dit Isabelle?
Je m'appelle Isabelle, j'ai 38 ans. Je suis mère de deux enfants. J'ai été licenciée en 2001 suite à une restructuration d'entreprise issue d'un rachat. J'étais responsable d'agence commerciale dans la distribution informatique. J'ai été prise en charge par les ACEDIC en mai 2002 parce que, entre-temps, j'ai fait un BP. J'avais le droit en mai 2002 à 30 mois d'indemnité. J'ai appris mercredi, de manière officielle, que mes droits s'arrêtaient le 8 avril prochain, alors que j'aurais dû être indemnisée jusqu'en novembre, suite à la réforme du PAR et à la rétroactivité de cette réforme. Donc je perds 7 mois d'indemnité. Ce que je sais, c'est qu'à partir du 8 avril, a priori, je ne pourrai pas faire de demande d'allocation spécifique de solidarité, je ne pourrai pas faire de demande de RMI, parce que je vis en couple et qu'il y a un revenu dans le foyer. Et que après certains calculs qu'on a fait avec mon mari, a priori à partir du mois d'avril, il devrait nous rester 3000 francs pour payer l'électricité, le téléphone et nourrir une famille de 4 personnes. Demain, mes préoccupations vont ne plus être de trouver un emploi, mais de savoir comment je vais pouvoir faire vivre ma famille, comment est-ce qu'on va pouvoir manger, parce qu'avec 3000 francs, je sais pas comment je vais faire.
Votre mari fait quoi ?
Technicien support informatique. Et je pense que cette réforme, enfin du moins cette rétroactivité de la réforme, va propulser beaucoup de familles dans la précarité. Je me demande si le gouvernement n'est pas en train de se dire on va sacrifier une partie de la population au profit des autres.
Retrait, retrait du RMA, à travail égal, salaire égal. Retrait, retrait du RMA, à travail égal.
Le RMA me révolte de me dire que des gens vont devoir travailler 20 heures par mois demain. Ça va coûter 180 euros à l'employeur. Pourquoi l'employeur va-t-il embaucher éventuellement un smicard s'il peut avoir 2 ou 3 RMA, c'est à 180 euros? Ça lui coûtera toujours beaucoup moins cher que quelqu'un qui coûte un smic aujourd'hui.
Donc on est en train de créer une sous-main d'œuvre mal payée. Moi, je considère que c'est un cadeau aux entreprises aujourd'hui. Oui, c'est certain, puisqu'on sait que les cotisations patronales ont été baissées de manière assez importante. On sait que l'UNEDIC a trouvé les moyens de faire des cadeaux à l'État. Il y a quand même eu un transfert de fonds de 115 milliards de francs. Mais si aujourd'hui on admet qu'il y a 250 000 personnes qui vont être propulsées dans la précarité demain et qu'on fait un ratio en se disant que le revenu moyen d'un chômeur aujourd'hui se situe aux alentours de 800 euros, on est en train d'économiser 1 milliard globalement alors qu'on en a donné 115 milliards à l'État et qu'on a fait des cadeaux monstrueux aux entreprises en baissant les cotisations. Ces recalculés-là, il y en a qui parlent de 850 000 personnes aussi. Hein. Moi, j'ai pris un chiffre bas de 250 000, mais il y en a d'autres qui parlent de 850 000. Mais c'est 850 000 chômeurs en moins, puisqu'on n'est plus aux ACEDIC. Mais c'est 850 000 précaires supplémentaires. Hein. C'est 850 000 personnes qui se retrouvent en état d'urgence et qui vont aller demander des aides à droite et à gauche dans les différents organismes et les différentes administrations. Et ça va coûter combien à la société française, tout ça? On peut se poser la question. Le RMA me plaît pas non plus parce qu'il maintient les gens sous le seuil de pauvreté. Et ce seront des travailleurs pauvres, oui, effectivement. Pourquoi les chômeurs ne sont-ils pas représentés à l'UNEDIC? C'est quand même eux qui sont directement concernés par cela. Et ce sont des salariés qui décident, des entreprises qui décident, mais le chômeur, il est même pas au cœur du système. Ce monde-là, je n'en veux pas. J'ai participé au Forum social européen, et là je me dis, mais on est en train aujourd'hui de vouloir réformer l'Europe, créer une Europe de l'économie, une Europe de l'argent, mais on oublie que l'Europe, elle est faite d'hommes. Et aujourd'hui, on est en train de nous sortir une constitution européenne sans droits sociaux. Et là, j'ouvre les yeux et je me dis non, je ne veux pas de cette vie-là, je ne veux pas de cette Europe-là. Mes enfants, je ne veux pas qu'ils vivent comme ça demain. Ça me réveille complètement, je suis réveillée et révoltée. Et j'espère que le 6 décembre, il n'y aura pas que des chômeurs dans la rue. Et j'espère que demain, toutes les personnes qui se trouvent aujourd'hui salariées seront dans la rue le 6 décembre aux côtés des associations de chômeurs et des précaires.
Voilà ce qu'Isabelle disait à Claire Otter vendredi, avant donc cette manif. Les auditeurs m'ont demandé de redonner des précisions sur ce programme d'attaque contre les indemnisations des chômeurs de longue durée au sujet de l'ASS, hein, c'est-à-dire l'allocation spécifique de solidarité. Il va y avoir une limitation, une réduction de cette allocation qui effectivement concerne 130 000 allocataires, et cette réforme entraînera une économie de 150 millions d'euros, et j'ai indiqué l'autre jour que ce chiffre était à rapprocher de 1 milliard 800 millions d'euros, qui est pour l'État la perte suite à la réduction d'impôt de 3%. Ok, et ça c'est pas moi qui l'ai dit, c'est François Bayrou qui s'en est indigné. Donc vous voyez, je peux pas faire un procès. Et c'est aussi un chiffre qu'on peut rapprocher de 17 milliards d'euros d'allègement des cotisations sociales patronales. Il y a eu cette année 1 milliard 700 millions d'euros de plus qu'en 2002 dans ce domaine de l'allègement des cotisations sociales patronales. Alors on est en droit de se demander pourquoi réduire ces allocations si c'est pour faire des économies aussi insignifiantes. Eh bien, la réponse, elle est que l'allocation empêche le retour à l'emploi. C'est un mot d'ordre qu'on essaye actuellement, que notre gouvernement essaye de faire passer dans l'opinion. Qu'en pense Robert Castel, sociologue, spécialiste du travail, du monde du travail et des mutations à l'intérieur du monde du travail, et auteur d'un livre qui vient de sortir, qui s'appelle L'insécurité sociale. Robert Castel. Mais Robert Castel, est-ce que ça marche, l'idée que trop d'allocations empêche le retour à l'emploi?
Non, je crois que là, il y a eu des enquêtes nombreuses qui ont été faites et qui ont réfuter, je crois, cette idée qui est néanmoins une idée assez populaire. Bon, que, par exemple, les chômeurs seraient plus ou moins des feignants, que le RMI, ce serait une façon de s'entretenir dans l'inactivité. Je crois que, alors j'ai pas en mémoire les chiffres, mais les taux de fraude, par exemple, au RMI, c'est de l'ordre, je le dis approximativement, de 3 ou 4%. Prenez quelle réglementation sur les impôts, par exemple, qui n'est pas transgressée à plus de 3 ou de 5%. Bon, donc, cette stigmatisation, je pense, à la fois des chômeurs, des RMistes, etc., ne repose pas sur des données objectives. C'est le vieux, j'allais dire le fantasme, mais malheureusement c'est plus qu'un fantasme, la vieille idée du mauvais pauvre, dont qu'ils auraient été placés sur terre pour vivre aux dépens des riches. Mais on voit de toute façon que la façon dont il est contraint de vivre, il faudrait non seulement qu'il soit mauvais, mais qu'il soit bête pour se satisfaire de cette situation. Effectivement, c'est une situation qui est subie, et c'est une situation, peut-être ajouter aussi un mot, parce que on a tendance, vous l'avez bien dit, justement, à renvoyer le chômeur à sa propre subjectivité, etc. Et faisant ça, on oublie que le chômage est un processus, ou la précarisation d'emploi, c'est un processus collectif. Ce sont des catégories entières qui sont déqualifiés. Et c'est quelque chose d'ailleurs qu'on oublie souvent à cause de notre habitude fâcheuse, à mon avis, de parler d'exclusion, trop d'exclusion. Si on parle d'exclusion, l'exclu, c'est un individu particulier, atomisé, enfin qui est seul avec ses déficiences. En fait, le soi-disant exclu, c'est dans la plupart des cas quelqu'un qui d'ailleurs, en général, aurait été parfaitement intégré dans le fonctionnement, par exemple, de la société industrielle, qui est une partie de la classe ouvrière, et qui perd lui, mais aussi sa classe, sa catégorie, se retrouve invalidée par des transformations économiques et sociales qui, visiblement, ne sont pas de son fait. Donc, je pense aussi qu'il y a un grand danger en une sorte de psychologisation de ces phénomènes de dissociation sociale, auxquels, d'ailleurs, les discours sur l'exclusion, je pense, contribuent aussi.
Philippe, tu veux poser une question ?
Non, je ne veux pas poser une question, je veux dire un truc. Je suis assez d'accord avec Robert Cassel. Simplement, très brièvement, je pense pas que ce soit les mauvais pauvres qui dépendent des gentils riches. Je crois que c'est le contraire. Je crois que c'est les riches qui vivent
de la
sur le dos des pauvres. La seconde chose, c'est sur le terme d'exclu. Ça existe, hein. Le terme, il existe. Nous, on le réfute dans notre association. Alors, c'est aussi parce qu'on fait de la politique, mais parce que exploiter, ça marche, parce qu'il y a des exploiteurs. Opprimer, ça marche, parce qu'il y a des oppresseurs. Exclure, il n'y a pas d'excluer. Et on laisserait penser qu'il y a une forme de fatalité. Ce que vous dites, sur on est renvoyé à sa sphère privée, individuelle, le collectif n'est pas responsable, enfin, c'est aussi ça le libéralisme, c'est que le libéralisme, c'est un petit peu tout est possible. Mais dans le même temps où ils disent tout est possible, ils pensent que tout est permis. Et je crois qu'on est en plein dans ça, c'est-à-dire que on peut réussir. Si on travaille, on peut, tout est possible. Sauf que c'est pas comme ça que ça se passe dans la réalité. Sauf qu'il y a des gens qui détiennent les moyens de production, d'échange, l'information, enfin, tous les pouvoirs. Et puis qu'en face de ça, bah, il faut ramer, on a que sa force à vendre, sa tête à vendre, voilà. Donc, je crois qu'il faut, est-ce que ça marche le fait que les chômeurs sont, on dit que les chômeurs sont trop indemnisés et donc que ça les éloigne de l'emploi. Oui, ça marche. C'est pas vrai. Mais ça marche. Et ça marche d'autant plus que les conditions de travail et de salaire se sont terriblement dégradées, les conditions de protection sociale. On attaque la sécu, on attaque les retraites, on va attaquer les congés payés, les droits des syndicats, le droit de grève. Dans quelques années, on va aller, pourquoi pas, remettre en le travail des enfants. Mais si tout saute, tout sautera, et y compris ça. On va refaire bosser les mômes. Il y a des dizaines de milliers de mômes dehors, ça, ils sont dehors. Ça nous choque, ça nous heurte, ça nous scandalise, mais ils sont dehors. C'est-à-dire qu'on va pas au bout. Et donc je pense que ça marche parce qu'il y a une véritable souffrance aujourd'hui au travail. Et que donc, comme les salaires se sont rétrécit pour le chagrin et qu'on bosse pour 600 euros par mois dans des conditions de chien, parce que les femmes de ménage maliennes sans papier qui ont toutes du boulot, elles se lèvent à 4 heures du mat, elles prennent le premier RER ou elles prennent le dernier RER pour rentrer le soir parce qu'elles habitent à Vitry et elles vont bosser à la Défense. Eh ben oui, il y a tellement de souffrance au travail. On a tellement tapé sur les conditions et les droits des travailleurs que ça marche.
Commentaire, Robert Castel.
Malheureusement, je pense une description très très réaliste de la situation de beaucoup de gens, y compris justement des travailleurs, parce qu'il y avait quand même ça qui est, je crois, sans abus de langage, on peut appeler une régression sociale. Bon, à quelques exceptions près, d'ailleurs, les gens que l'on appelait le quart monde, qui n'étaient pas encore entrés, on pourrait dire, dans le processus de la modernité, à quelques exceptions près, la condition salariale, c'était une condition qui assurait justement ce minimum de protection de droits. Il y avait au minimum le SMIC, il y avait la retraite, il y avait, et effectivement, comme vous le disiez, c'est ça qui est en train de se défaire en ce moment. Et qui se paye justement de cette remontée de l'insécurité sociale.
Dialogue entre le sociologue et Philippe Michelin, qui est à la fois chômeur lui-même et syndicaliste. Je le disais tout à l'heure, la difficulté, c'est évidemment de réunir, de créer une force avec des exclus, avec ceux qui, et depuis longtemps maintenant, sont dans ce que Robert Castel appelle la dissociation sociale. Comment réunir, comment mettre ces exclus en marche, Philippe Villechalane.
Philippe Villechalane, quand on aide les chômeurs et qu'on milite auprès des chômeurs et des précaires, hein, parce qu'il ne faut pas isoler ces deux catégories, c'est d'arriver à les réunir. Parce que ce sont des gens différents, avec des parcours différents, des cultures différentes, des degrés de conscience sociale, on va dire, pour aller vite, différentes. Et c'est une des raisons pour lesquelles généralement les manifs de chômeurs, on en a suivi beaucoup, enfin on a fait des reportages pas mal sur ces manifs-là, ça marche jamais véritablement.
C'est héroïque, il faut les faire.
Ça va marcher. La manif de chômeurs ne réunit pas des grandes foules.
Non, mais je crois que ça va venir. C'est presque naturel.
Voilà.
Parce qu'on peut pas se reconnaître dans quelque chose qui est complètement dépeint en négatif. Parce que avoir une place sociale, quand on se présente, tu dis bonjour, je suis Daniel Mermet. Alors toi, c'est pas le bon cas, mais moi, quand je me présente, je dis bonjour, je suis Philippe Villechalane. J'ai 49 ans, j'ai 3 enfants, un petit-fils, et puis après je dis quoi ? Moi je peux dire, je suis porte-parole d'une association de chômeurs. Mais si j'étais pas engagé dans ce mouvement-là, je dirais quoi ? Je suis chômeur ? Je dirais, on me considère en plus. Parce que c'est ça en fait, à un moment donné, tu vois, quand on remet les choses à leur place, il y a des gens qui seraient en plus dans le système. Nous on pense qu'ils sont en trop, dans une logique donnée. Mais n'empêche que s'affirmer en tant que chômeur, c'est un travail sur soi-même, c'est une thérapie, enfin il faut une thérapie, c'est très très dur. Donc c'est vrai que c'est difficile de mobiliser, en même temps, alors d'abord juste un petit rectificatif, on n'aide pas les chômeurs, hein. Enfin on n'est pas une association d'aide, on est une association revendicative et d'accompagnement, parce que la première des choses c'est les droits, obtenir les droits, faire valoir les droits. On est dans une société de droits, ça peut pas être que la sécurité sarkozienne, la sécurité. La sécurité, c'est ce que dit Robert Castel, c'est la sécurité sociale, c'est-à-dire ce qui permet le pendant de l'un, il faut qu'il y ait l'autre pour que aujourd'hui, on a l'impression que la sécurité est sécuritaire, elle est là pour museler, pour accompagner, pour encadrer le développement de la pauvreté. Enfin, c'est assez clair. Quand moi, j'habite dans des cités dans le Val-de-Marne où les jeunes issus de l'immigration sont pour 42% au chômage. Ils ont pas de perspective, pas d'avenir. Je trouve qu'ils sont fort gentils. On voudrait quand même, on a l'impression qu'on voudrait qu'ils se laissent crever, quoi, hein, qu'ils aillent à l'abattoir. Et moi, je trouve qu'il n'y a pas de... Peut-être qu'il y a une différence, parce que la pauvreté, par exemple, elle a toujours existé. On ne découvre pas la pauvreté aujourd'hui. Peut-être que la différence entre la pauvreté et la misère, c'est l'espoir. Parce que hier, moi, je suis issus de l'immigration italienne. Mes parents, mes oncles sont venus ici, ils ont travaillé dur. Mais dans leur tête, il y avait « nos enfants vivront mieux que nous ». Ouais, on se déchire, mais nos enfants vivront mieux que nous, ils vont avoir accès à l'école, donc à la connaissance, au savoir, enfin à la libération, au choix. Et ben aujourd'hui, si on n'est pas en capacité d'inverser les choses, je crois qu'on peut dire que nos enfants vivront plus mal que nous. Et je crois que c'est ça la différence entre « la pauvreté, elle a toujours existé ». Ça, c'est pas une question seulement de revenus. C'est une question d'espoir, de qu'est-ce qui porte dans l'avenir. Est-ce qu'on a des perspectives ou pas? Et je crois que là, il y a quelque chose qui s'est cassé, justement parce que l'organisation sociale a faibli, parce que le libéralisme et le capitalisme ont gagné pour l'instant. Ils gagnent sur tous les fronts. Et donc, je crois que il faut remettre les choses à leur place sur ces questions-là, parce que il me semble, moi, que la manifestation, elle ne concerne pas que les chômeurs. Et pas simplement en termes de solidarité. C'est déjà pas mal, la solidarité. On en a besoin, du collectif, de la solidarité, de pas être envoyé tout le temps à sa propre vie individuelle, mais aussi parce que tout le monde est concerné. Il est question de cohésion là-dedans. On s'attaque aux plus fragiles, aux plus précaires, aux plus pauvres, donc aux chômeurs et tout, aujourd'hui. Mais il y en a peu qui seront épargnés, finalement. Mis à part ceux qui tirent les ficelles. Mais comme il y a une logique, eh bien, il va bien falloir remonter. Aujourd'hui, ceux qui sont encore dans des situations d'inclus, eh bien, ils vont être becquetés. Donc, ils ont intérêt à être demain dans la rue avec nous. Bon.
Le patronat, au RMA, la bourgeoisie, au RMI. Le patronat, au RMA, la bourgeoisie.
Bon, je crois qu'il faut pas croire à la philanthropie des capitalistes ou des chefs d'entreprise, etc. Mais il y a quand même le type de main-d'œuvre, le capital humain, comme ils disent, dont un capitalisme moderne a besoin pour être justement performant, efficient. Si on demande aux ouvriers, on dit aujourd'hui aux opérateurs, d'être responsables, d'être efficaces, d'avoir... Est-ce qu'ils peuvent être ceux-là sans un minimum de garantie de protection? Est-ce que le modèle de l'opérateur, c'est le travailleur jetable, pour citer une formule, ce qui avait été le ministre de l'Intérieur de Clinton, je crois, dont on se débarrasse, qu'on pressure comme un citron et dont on se débarrasse. C'est ce qu'on a tendance à faire aujourd'hui, mais c'est peut-être, on peut aussi espérer que nous sommes dans une forme de passage aussi des formes d'organisation capitaliste et que on trouvera, je peux pas le garantir évidemment, mais qu'on trouvera des formes de régulation. Parce que si nous avions eu cette conversation en 1830, par exemple, on aurait certainement été extrêmement pessimiste. Par exemple, le prolétariat de l'époque, il était complètement atomisé, malheureux, etc. Il s'en est pas mal tiré, ce qui était devenu cette condition salariale. Donc, je crois qu'il faut éviter un prophétisme et un catastrophisme par rapport à l'avenir, mais plutôt essayer de veiller dans la situation présente, au moins à ce que la situation se dégrade pas trop, moi.
Retrait, du RSA, à travail égal, salaire égal, retrait.
Merci à tous, merci à Claire Auter qui fait ce reportage, merci aussi à Philippe Villechalane et Robert Castel. Je rappelle que Robert Castel est l'auteur de l'insécurité sociale. Technique aujourd'hui Antoine Viossa et Michel Thomas, c'est Christophe Humbert, Coy Nguyen et Antoine Chao qui ont réalisé cette émission modeste et géniale. Il est 18h sur France Inter, vous l'avez entendu, on se retrouve demain à 17h et je vous laisse pour les infos avec Laetitia Gaillet. Salut.